Culture Sport, le lundi soir sur Attitude, dès 19h. Les résultats complets du week-end en région, présentés par Christian.
Bonsoir à tous et bienvenue dans le flash résultat du week-end sportif. Un week-end chargé en Charente, hein, puisque les footballeurs ont repris le chemin du championnat et les rugbymen continuent leur avancement dans leur saison. On va d'abord parler de football avec la CFC qui recevait vendredi en match avancé l'équipe d'Andrézieux, un adversaire d'Andrézieux qui ne réussissait pas particulièrement à la CFC puisque les Angoumoisins restaient sur deux défaites consécutives la saison dernière en championnat. Mais c'est une équipe d'Andrézieux qui a beaucoup changé avec notamment l'arrivée de l'ancien Angoumoisin Htemok. Et c'est une équipe d'Andrézieux et de la CFC qui est dans une passe, on va dire moyenne, avec une bonne défense mais une attaque qui peinait à marquer des buts. Score final 1 partout avec l'ouverture du score sur penalty de la CFC, un but marqué par André Patrick Kayoubi qui a obtenu le penalty et qui s'est fait justice lui-même. La frustration côté angoumoisin, c'est ces occasions soit arrêtées par le gardien d'Andrézieux, Mézonial, soit à côté, pas cadré, parce que la CFC a eu plusieurs occasions de faire le break, de mener 2-0. Et malheureusement, c'est Andrézieux en fin de match qui va revenir à la 89e minute sur un penalty de Silla, qui pareil se fait justice lui-même en ayant provoqué un penalty, on va dire, généreux pour Andrézieux, mais finalement score match nul 1 partout. Pour la CFC, c'est le deuxième match nul consécutif après le nul ramené de Lorient la semaine dernière. Je vais donner les autres résultats de cette poule de National 2 avec la victoire des Herbiers contre Trélissac 2-1, le match nul entre Bergerac et Gol FC 2 partout, Angers est battu à domicile par Bourges 3-1, Nantes et Lorient font 0-0, Vierzon et Saumur font 0-0, Moulins, Chamalières, le derby de l'Auvergne 1 partout, et enfin Romorantin bat le Stade Bordelais 4-2. Au classement, Gol FC toujours en tête avec 20 points, égalité avec Saumur. Troisième, les Herbiers et Bergerac avec 18 points. La CFC est 10e au classement avec 14 points. Mais attention, les Angoumoisins ont un match de plus que leurs adversaires. Que pratiquement tous leurs adversaires, puisqu'ils avaient joué en match retard contre le Stade Bordelais. Donc il faudra voir un peu leur place après l'actualisation des matchs retard qui interviendront mardi et mercredi prochain, donc en milieu de semaine. Au niveau Ligue en Régional 1, match nul de Cognac, 1 partout contre le Stade Saint-Médard-Cé, donc Saint-Médard-des-Rangs en Gironde. Un nul où Cognac a été réduit à 10 au bout de un quart d'heure de jeu et un nul où Cognac a réussi à marquer en fin de rencontre. Donc on va dire que pour la formation d'Alvin Henry, c'est plutôt un bon point de prix par rapport à la physionomie du match. Ça reste forcément frustrant une semaine après s'être incliné à Angoulême. Et la réserve de la CFC, elle, se déplaçait du côté de Lormont, en Gironde. Les Angoumoisins ont ouvert le score par Noah Marchessault. Mais malheureusement, Lormont a marqué 2 buts en fin de match à la 83e et un penalty à la dernière seconde, 92e. Donc une défaite frustrante pour la CFC, qui est 9e au classement avec 11 points, et Cognac est 10e avec 10 points. C'est compliqué pour les deux formations charentaises qui se battent pour leur maintien en R1. C'est une année où il y a beaucoup de descentes puisqu'il y a une réforme des championnats. Donc pour les Angoumoisins et pour les Cognacais, il faudra s'accrocher et prendre des points le week-end prochain, qui sonnera la dernière journée, grosso modo, un peu des matchs avant les fêtes de fin d'année. Cognac se déplacera à Brive chez le leader, déplacement très compliqué, et Angoulême recevra Mérignac-Arlac, déplacement aussi compliqué parce que Mérignac avait terminé 2e en R1 la saison dernière. En Régional 2 en poule A, malheureusement défaite de Leroy sur sa pelouse contre Chauvigny, la réserve de Chauvigny, défaite 2-1. Leroy est donc 7e avec 9 points. En poule B, que des défaites malheureusement pour le clan charentais avec une défaite de 4-0 de Cognac à Migny-Auxances, défaite de Charente-Limousine 4-2 à Choré, la réserve de Choré, et enfin malheureusement une défaite de Merpin à l'Étoile Maritime 2-0. Au classement, Charente-Limousine est 5e avec 15 points et malheureusement Merpin et Cognac sont dernier et avant-dernier avec 6 et 3 points. Petit bémol quand même pour Merpin qui possède des matchs retard eu égard à son parcours en Coupe de France. Donc les hommes de Romain Rigalot auront la possibilité de gagner des points et ainsi de remonter au classement. En poule D, il y avait derby charentais de cette poule entre Jarnac et Sireuil, score final 1 partout. Sireuil est 4e avec 13 points et Jarnac est 9e avec 10 points. En Régional 3 en poule C, la bonne dynamique se poursuit pour Confolens qui obtient un bon 0-0 contre la réserve de Panazol. Ruffec obtient lui aussi un match nul du côté de Bessines-Morterolles dans la banlieue de Limoges, 1 partout. Plutôt, nos Charentais sont plutôt bien classés hein, puisque Ruffec est 4e avec 15 points et Confolens est 6e avec 11 points. En poule F, la rencontre entre Vindel et Soyo a été reportée. Saint-Alex continue son bon chemin en gagnant son 9e match en 9 journées. Victoire 2-1 contre Ruel. L'autre derby charentais du week-end entre La Roche-Rivière et Puymoyen a donné un match riche en buts, mais pas de vainqueur. 3 partout. Score final. Au classement, Saint-Alex est en tête avec 27 points. Soyo est 4e avec 13 points. Puymoyen est 5e avec 13 points également. Vindel est 7e avec 10 points. Ruel est 9e avec 8 points. Et enfin, La Roche-Rivière est 11e avec 5 points. Et enfin, en poule G, l'Alliance 3B fait un match nul contre le Racing Club de Bordeaux. C'était l'un de ses concurrents directs pour la montée. Donc, c'est plutôt un bon point pour la formation d'Adnan El Archi, qui perd un peu d'avance au classement, puisque dans le même temps, Saint-Loubès a gagné. L'Alliance 3B donc est premier avec 22 points, deuxième Saint-Loubès avec 19 points, et troisième le Racing Club de Bordeaux et Rive Droite 33, qui comptent tous les deux 17 points. Je vais donner les scores de la D1 de football. Il y a deux matchs qui ont été reportés, donc seulement 4 matchs au programme de cette D1. Basso va rouler 2-1, Brie bat la réserve de Merpin 4-0, Lessac bat Saint-Michel 5-1 et la Couronne bat l'Alliance 3B 2-1. Au classement, Saint-Michel reste premier malgré sa lourde défaite avec 20 points devant Basso 19 points et Champigny 18 points. En bas de tableau, c'est vraiment très serré puisque la Couronne est dernier avec 7 points, mais la Couronne ne compte que 2 points de retard sur Brie qui est 5e, donc c'est un championnat pour l'instant à 2 vitesses et hyper serré dans sa deuxième partie de tableau. En D2, en poule A, Aigre s'impose à La Roche-Rivière 1-0, Verdy s'impose à Charente-Limousine 2-0, Mornac s'impose à Bel Air 2-0, Sireuil s'impose à Ruffec 4-2 et victoire de Chasseneuil contre Marle 6-0. Au classement premier, Sireuil avec 20 points, deuxième Mornac 16 points et troisième Chasseneuil avec 15 points. En poule B enfin, Montmoreau bat Châteauneuf 4-1, Grande Champagne bat Chazel 5-1, Ruel Jarnac 4-3, Nersac Sud-Charente 6-0, Saint-Séverin Linard 2-1, deuxième défaite de suite pour le leader Linarcé, et enfin Saint-Brice et Champigny font un partout au classement. Linard est toujours en tête, mais Linard se fait rejoindre au classement par Grande Champagne. Les deux équipes comptent 21 points et troisième Jarnac 18 points. En D1 féminine, malheureusement, défaite de la J-Soyo 3-1 du côté de Guingamp. C'est une défaite frustrante hein, puisque Guingamp était dernier au classement, et même si les filles de Michel Bradaya reste hors de la zone de relégation et ne compte plus qu'un seul point de retard sur le dernier Guingamp, et elles sont égalité de points avec Rodez. Je vais donner les scores de cette journée de D1. On était sur la 10e journée, donc avec match nul entre Montpellier et Fleury 1 partout, Guingamp donc Soyo 3-1, Bordeaux Rodez 3-1, Reims Le Havre 3-1, Lyon Dijon 8-0 et le Paris Saint-Germain le Paris FC qui sera le prochain adversaire de Soyo. Au classement premier, Lyon 28 points, deuxième le PSG 26 points et troisième Paris FC avec 18 points. Soyo est dixième avec 5 points. On va rappeler en rugby la défaite du SA15 malheureusement jeudi soir contre Oyonnax 20-15. Les Violets ont fait un bon match, mais malheureusement ils se sont fait rattraper et puis dépasser en deuxième mi-temps. Cognac recevait Suresnes et malheureusement Cognac, même si Cognac a fait un bon match, il s'incline à domicile 24-18 contre les banlieusards parisiens. Et bien du côté de Barbezieux, c'était un déplacement à Saint-Médard et c'est un gros coup pour le maintien que réalise Barbezieux, puisque l'UBJ s'impose 19-18, un petit point qui vaut de l'or pour l'UBJ qui fait une très belle opération par rapport au maintien. En handball, les Tech poursuit sa marche en avant. Les Tech est toujours leader de sa poule puisqu'ils ont gagné contre l'avant-dernier les Girondins de Bordeaux 32-19, une victoire acquise avec la manière pour les Tech. Les Tech qui comptent un point d'avance sur Bruges et deux points d'avance sur Asson. 8 victoires, 1 nul et 1 défaite. De très bon bilan pour les hommes de Rémi Faugère. En National 1 féminine, la CH s'est imposée à Montcoutan. Une belle victoire des filles de Magdi Bidorini. Victoire de la CH 27-26. Paris, un petit but d'écart mais qui fait une énorme différence. Dans le même temps, malheureusement, Cognac s'est incliné contre Montluçon 33-21. La CH est quatrième et se prépare donc à défier les deux leaders du championnat. Et Cognac, malheureusement, est dernière avec 8 défaites en 8 matchs. En basketball, victoire de la Couronne Basket à domicile contre la réserve de Limoges ABC. Victoire 56-53, une courte victoire qui fait aussi du bien pour les Couronnaises qui signent leur troisième succès de la saison. 3 victoires, 7 défaites, c'est le bilan des Couronnaises. Des Couronnaises qui sont 10e et qui comptent le même bilan que les 8e. Rier-Vie. Pour les Couronnaises, tout reste possible. Il restera encore un match à jouer dans cette phase aller pour les couronnaises. Ce sera la réception justement de cette équipe de Rievi. Donc si la couronne s'impose la semaine prochaine, la couronne gagnera au minimum une place. Je vais terminer par un mot de judo, puisque il y a plusieurs résultats que je n'avais pas donné sur les week-ends précédents, donc on suit un peu les publications des résultats sur le site de la couronne Grand Angoulême Judo. On va donner le résultat du tournoi Excellence Junior qui avait lieu à Limoges, avec donc la victoire de Marie Desangles en moins de 70 kilos, la victoire également de Ilana Bouvier en moins de 78 kilos, la deuxième place de Marven Banama Kibiti en moins de 73 kilos, la troisième place de Fatih Dupuis en moins de 60 kilos, la cinquième place de Manon Desfarges en moins de 48 kilos, et malheureusement pour les autres couronnés n'ont pas été classés. Becca Apsiori n'a pas été classée en moins de 60 kilos, Kevin Géraud en moins de 66 kilos, Tristan Korzinski en moins de 66 kilos et Mohamed Mazouzi en moins de 81 kilos n'ont plus de classés. Et puis enfin, au tournoi de Val-Échelle, donc c'est un tournoi qui avait lieu du côté de Villebois-Lavalette, qui rassemblait vraiment la jeunesse couronnaise au niveau du judo, ça a été une razzia pour les jeunes couronnés, puisque donc les pré-poussins, les poussins et les benjamins ont gagné beaucoup de médailles d'or, donc félicitations à tout le monde. Il y a trop de judokas pour que je donne tous les noms, mais en tout cas, sachez que c'est 31 médailles d'or pour le club sur le tournoi de Val-Échelle, donc c'est vraiment remarquable. Et bien bravo aux couronnaises et aux couronnés qui ont été chercher lors de cette compétition. On va retrouver tout de suite Jean-Pierre Carabini, on va rester à la couronne et on va parler de rugby. Jean-Pierre Carabini reviendra sur l'actualité de son club, le COC Rugby. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Flash Résultat. Bonne soirée, au revoir.
Culture Sport, tout le sport en Charente, tous les lundis soirs, 19h.
Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous écoutez Attitude, merci d'être fidèles au rendez-vous sur 98.3 et 90.7, mais aussi sur www.attitudefm.com pour écouter donc votre émission Culture Sport, chaque lundi 19h-20h30. Nous accueillons aujourd'hui Jean-Pierre Carabini, président du Coq de la Couronne Rugby. Donc Jean-Pierre, bonsoir, bienvenue et merci d'avoir accepté notre invitation.
Bonsoir à vous et merci de m'avoir invité en fait. C'est moi qui vous remercie beaucoup de pouvoir m'exprimer, de pouvoir exprimer par rapport au club.
D'accord,
c'est
parfait.
Toujours gratifiant.
Et t'es un fidèle de l'émission, donc c'est toujours avec plaisir qu'on te reçoit. Donc ce que je te suggère, Jean-Pierre, c'est dans un premier temps de faire un bref retour en arrière sur la saison passée et nous dire un petit peu ce qui se passe depuis le début de cette saison.
Ah ben il se passe quand même beaucoup de choses au club. Il se passe, mais quand on se rend compte qu'on est 460 licenciés et qu'on repart sur cette même dynamique, moi je peux dire que le club va bien, va même très bien. J'ai une école de rugby qui est pléthorique. Quand on se déplace pour les tournois, on nous voit beaucoup. Les féminines, on a cette année, on va pouvoir aligner une équipe moins de 18. Pour vous dire, elles ont fait un déplacement à Aurillac, donc elles vont loin et pour jouer à 15. On est associé donc avec le SA 15. C'est le SA 15 qui est associé avec nous, plus ou moins, plutôt, puisqu'ils ont besoin de nous. Et on a aussi deux équipes de 16 et une équipe de 19 qui est engagée. Une équipe senior féminine qui brille, oui, qui brille. Par contre, quand je parle de briller, je suis déçu pour mes garçons parce que ça répond pas, quoi. Ça répond pas à l'appel et que on peut pas faire pire en termes de classement puisqu'on est bon dernier. Voilà. Alors, j'ai bon espoir parce que dimanche prochain, on reçoit l'Île Dorée. Et bon, c'est dans nos cordes, il faut qu'on y arrive. Et les filles aussi jouent dimanche, et puis elles reçoivent, que je me trompe pas, elles reçoivent Niort. Et samedi, on a un grand tournoi, le tournoi départemental, et on a aussi des matchs de cadets. Je veux dire, la couronne sport rugby est très occupée et très effervescente.
Comment ça se passe d'ailleurs le dimanche quand l'équipe féminine et l'équipe masculine jouent en même temps? Est-ce qu'il y en a une qui joue en levée de rideau ou vous utilisez les deux terrains qui sont à disposition?
J'utilise les deux terrains parce qu'il y a une histoire d'amplitude. L'été, effectivement, quand il fait bien jour, on peut faire les matchs les uns après les autres. À ce jour, non. Il fait nuit trop tôt, mon éclairage est insuffisant. Et puis aussi l'histoire de l'amplitude des autobus. On est un peu coincé. Donc, on arrive à échelonner les matchs avec match 13h45, puis après 15h pour les filles et 15h30 pour les garçons. Donc, on utilise deux terrains. On a cette chance d'avoir deux terrains.
D'accord. Bon, ça permet aux spectateurs, du coup, de voir deux matchs en un, au final.
ça permet de voir effectivement les Couronnaises et les Couronnais se évoluer sur ces deux terrains, oui.
Par rapport à la première, on sait que le club, ça n'est pas qu'une équipe première, ça, c'est l'équipe première, c'est surtout un peu la locomotive et ce qu'on voit le lundi matin dans les journaux. Au niveau de l'encadrement de l'équipe première, est-ce que vous avez toujours les mêmes encadrants ou est-ce que le staff technique a été modifié cette année?
Il a été modifié, oui, c'est Raphaël Brun qui est en charge, ainsi que Clément Gazo. Donc je suis un peu pauvre là-dessus, mais voilà, on est un peu pauvre, on est à la recherche un peu de compétences aussi, oui, et de bonne volonté.
Qu'est-ce qu'il y a eu entre la saison 2021-2022 et cette saison 2022-23, où les résultats, comme vous le disiez fort justement, ils sont pas à la hauteur de ce que vous peut-être espériez.
Oui, non, mais je peux l'expliquer. Bon, il y a eu moult raisons. Donc, en premier lieu, on peut dire le Covid. Après, il y a surtout la perte et l'arrêt de joueurs qui était important. Et je n'ai pas été alimenté ni par des jeunes ni par des éléments extérieurs.
D'accord.
Donc, j'ai des jeunes qui sont adorables, en bonne, mais qui manquent de rugby et je manque de savoir-faire rugbystique. Oui.
Comment t'expliques justement que t'aies pas pu avoir été alimenté parce que c'est normalement la Couronne est un club qui attire plutôt les bonnes volontés comme tu le dis.
Alors, ça attire effectivement. Cette année, on a eu la chance d'accueillir des jeunes, des compagnons du devoir. Mais c'est des jeunes qui font, c'est du rugby loisir et régional 1, c'est déjà de la compétition et le niveau est en deçà, quoi. L'autre fois, quand je vous ai vu au téléphone, on parlait de la problématique du rugby amateur et elle se pose là. Le rugby professionnel se porte très, très, très bien. Mais, il a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup de joueurs et en besoin, entre autres, de sparring partners. Et de ce fait, il assèche nos clubs en termes de qualité et en termes de nombre aussi. Mm-hmm. Donc, c'est pour ça que, bon, il n'y a pas que nos garçons à nous. Hein. Les autres clubs souffrent de la même maladie, entre guillemets. Mais le monde professionnel va très bien.
Comment on peut résoudre justement ces problèmes que vous soulevez là?
Donc, prendre acte de ça est tout à fait. Et puis, moi, je comprends leur problématique. Et puis, ils ont les bonnes solutions. J'ai pris, donc, dans le club, une apprentie en communication. Et cette apprentie en communication, pour moi, elle est là. Moi, qui s'appelle Pamela Bianchini, et elle est à la Media School à Angoulême. Elle est en alternance. Et elle est là pour montrer à tous ceux du club, ce qu'est le club et leur faire aimer encore plus. C'est aller vers cette culture du club, plus que sur une culture de résultats, que je n'ai pas, mais leur apprendre que c'est un style de vie, que c'est un mode de vie qui peut être gratifiant pour eux. Donc c'est les amener à aimer encore plus le club. Et il l'est, puisque au vu des effectifs, au vu des bénévoles qui sont là, au vu de mais des bananes qu'ils ont, hein, quand je les vois qui sont heureux avec les enfants, c'est on ne peut plus réjouissant.
Donc en fait, tu penses que le rugby amateur est une victime collatérale du monde professionnel qui se porte très très bien?
Indirectement, oui, on a subi les conséquences.
Oui, mais c'est important ce que vous dites, Jean-Pierre, parce que ça veut dire que autour, si papa, ils prennent ces effectifs-là, autour, qu'est-ce que vous allez devenir?
C'est la bonne question. Qu'est-ce qu'on va devenir? On a cette chance, nous, d'être dans le bassin du Grand Angoulême et d'avoir donc un effectif important et d'attirer du monde, hein, parce qu'on a quand même la chance d'avoir donc des compagnons de devoir, il y a des facultés, il y a des jeunes qui ont un peu joué au rugby et qui sont attirés. Et c'est plutôt le drame du rugby rural aussi.
Oui, parce que c'est vrai qu'on reçoit, on a reçu plusieurs clubs de départements comme Ruffec ou La Rochefoucauld par exemple dans nos émissions jadis. C'est vrai que c'est des clubs qui sont en manque d'effectifs, quoi, tout à fait, comme tu soulignes.
Quand on voit que Nontron fait appel à nous, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. C'est une évolution. C'est une évolution. Mais c'est rugby rural là. Oui.
Oui. quand on regarde les effectifs, effectivement, on s'aperçoit également que la catégorie d'âge, si on prend Vinfagna en Ruffec, la catégorie d'âge des joueurs, c'est plus de 40 ans.
Alors que, pas chez nous, en tout cas. Nous,
non, je parle dans le rugby département en Charente. Hein.
Oui, d'accord.
Je parle en général. Ils n'ont pas 460 licenciés. Hein.
J'ignorais ce chiffre. Voilà. D'ailleurs, pour preuve, je veux dire, bon, par rapport au mon nombre de licenciés, ma crainte, moi, c'est la Coupe du Monde de rugby, oui. Où je vais avoir un afflux de jeunes et je ne sais pas où je vais pouvoir les mettre.
Bien sûr.
Et surtout bien les accueillir, parce qu'en fait, c'est d'abord notre credo à la couronne, c'est bien les accueillir.
Ouais, c'est vrai.
Parce qu'avoir du nombre, ce n'est pas forcément le premier objectif, c'est bien les accueillir.
Bien sûr.
Les garder après.
D'ailleurs, là, 460 licenciés, vous êtes vraiment dans la fourchette haute qu'a connu le club ? C'est un record pratiquement ?
Oui. Là, je suis au plus haut et on n'a pas fini encore de faire entrer des licences. Donc, c'est énormissime. Ça veut dire que tout le monde ne se connaît pas. Tout le monde ne se connaît pas. D'où l'intérêt de mon apprenti.
D'accord.
Par des manifestations, elle est là à côté de moi. Je veux que vous l'entendiez parce que j'en suis très très content.
Et puis en tout cas 460 licenciés, ça donne beaucoup de travail à ton fils notamment qui je crois qui est toujours responsable de l'école de rugby de la Couronne. Ça fait beaucoup de jeunes à entraîner. Est-ce qu'au niveau éducateur vous arrivez à suivre?
Oui, on arrive à bien le faire, à faire ce que l'on souhaite. On a aussi l'apport cette année de STAPS, d'étudiants STAPS, qui doivent faire leur stage en deuxième année. Donc, cela nous aide. Même, bon, ils sont là en observation, mais bon, ils nous aident beaucoup aussi pour les équipes. Mais ça fait beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Beaucoup de temps, oui.
Alors, je trouve que c'est bien ce que vous faites là au niveau de... Parce qu'ils sont à l'Université de la Couronne. Vous parlez des...
Oui.
Ça, vous avez. Moi, je suis admiratif de ça parce que ce sont des gens qui méritent une grande admiration.
Mais vous parlez des STAPS, là.
Oui.
Et vous avez raison, mais on a la chance en plus sur Angoulême d'avoir ce qu'ils appellent. Ils ont un BDE qui est très 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 dynamique et qui va vraiment vers les gens qui a des projets et on a su nous l'année dernière et cette année en profiter. Et on se rend service mutuellement aussi. Mais on a cette chance-là.
Aujourd'hui, vos besoins, c'est les structures, c'est le matériel, c'est les terrains, parce que quand on a autant de licenciés, c'est vrai que la Couronne est une ville dynamique au niveau sportif. C'est vrai que il faut loger tout ce beau monde.
Il faut loger ce monde, il faut
s'en occuper.
C'est l'organisation, c'est la logistique. Hein, quand vous prenez un bus pour aller à La Rochelle, c'est 1 000 euros. Hein, parce que quand on sait que des fois j'ai 6-7 équipes qui jouent un même week-end, ça fait des moyens financiers dont j'ai besoin. Là, c'est un des premiers besoins. Après, j'ai besoin aussi effectivement d'infrastructures. On a la chance aussi d'avoir le foot qui est partageur et qui est vraiment dans cette animation sportive aussi et qui nous prête quelquefois un demi-terrain. Ouais. La ville vraiment nous aide beaucoup. À ce jour, on n'a pas eu d'interdiction de terrain, alors que la grande ville à côté s'est empressée de l'interdire.
Oui, Angoulême, oui, effectivement.
On est très, très aidé par notre commune. Ça ne me dérange pas du tout de le dire, et au contraire. Et à ce propos, donc, qu'est-ce que je fais pour mon rugby amateur ? Je participe effectivement beaucoup à tous les projets que la commune peut avoir. On participe au Téléthon, on participe à marché de Noël qui a à la fin du mois. Bon, nous sommes présents. Nous sommes présents parce qu'on fait partie aussi effectivement de la vie de la cité et je pense que c'est nécessaire moment pour la vie du club.
Oui, et puis c'est vrai que pour moi, habitant la Couronne, c'est vrai qu'il y a vraiment une belle synergie entre l'équipe municipale et puis les différents clubs sportifs, hein, que ce soit le vôtre, le basket, le judo aussi, et puis tout le football et puis tous les autres sports. Hein. Il y a aussi le cyclisme qui va se faire voir construire un équipement. C'est vrai qu'il y a aussi des manifestations comme Place au Sport, il me semble, l'été, où les différentes structures sportives, elles peuvent justement un peu faire leur pub et puis démontrer un peu ce qu'elles font. Enfin, c'est vraiment une belle synergie entre tous, ça, c'est bien ça.
Oui, mais comme vous dites, En fait, on dit toujours il n'y a pas assez de communication, pas assez de communication, mais parce que les gens ne vont pas chercher l'information forcément. Et donc, cette place au sport et aux associations est faite pour. C'est-à-dire que chacun montre ses compétences et montre ce qu'il sait faire. Et si on est intéressé, libre à lui, à cette personne d'y adhérer. Mais ça fait partie de ces manifestations, je dirais, que j'aime bien vers cette culture populaire où les gens se rencontrent. C'est pas forcément des choses extraordinaires avec des grands cracheurs de feu, mais c'est des gens, des lieux où on peut se rencontrer et partager des belles choses.
Oui, c'est bien de faire découvrir son activité. Enfin, je trouve que c'est, voilà, ça se passait aux Cités des Émeraudes dans le temps. Je sais pas si ça se poursuit là-bas, mais c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui participent même.
Oui. Ça veut dire que si on tend un micro, si on pose des questions, on peut avoir des réponses et on peut avancer. Oui.
En fait, souvent, c'est ce qu'on dit, c'est le public qui vient au sport. Là, c'est une démarche inverse. C'est le sportif qui s'en va vers le public.
C'est ça.
Oui. C'est une belle image, mais c'est la vitrine, quoi. Et la vitrine, effectivement, si on peut passer devant sans la voir, c'est parce qu'on regarde pas. Mais si on fait un peu de musique, si on fait un peu de mouvement, ça peut effectivement attirer l'œil et puis attirer son attention. Oui, c'est tout à fait ça. C'est la même chose quand on organise nous des événements. Hein. C'est-à-dire que l'année dernière, quand on avait organisé les finales féminines de rugby à 7, quelle belle vitrine pour nous.
Oui, d'autant plus que c'était pas la première fois que vous organisez cette manifestation. Donc, c'est aussi signe que cette organisation des Sevens féminines, c'est ces manifestations que vous avez bien organisées. Et puis finalement, les instances vous ont fait confiance pour la réorganiser.
C'est tout à fait ça. Je veux dire que donc c'est la FFR qui a besoin de sérieux et de crédit pour organiser ce type de manifestation donc nationale.
Oui.
On l'avait déjà fait en 2019, et c'est ce crédit-là qu'on avait qui a pu réitérer la chose. Malheureusement, on ne pourra pas l'avoir, parce qu'on peut l'avoir que deux fois, et que d'autres régions sont empressées de sauter sur l'occasion. Mais après, bon, ça a permis au club de bien se connaître, de faire connaître au niveau national, et de ce fait, on aura autre chose. On aura autre chose parce qu'on a du crédit. Et ça, c'est hyper important. À ce propos, on avait fait une inauguration de ces finales en faisant une visite au FRAC. Et ça tombait bien parce qu'en même temps, c'était de l'art féminin par des féminines. Donc, qui connaît le Fonds régional d'art contemporain? Pas grand monde, mais je trouvais que l'idée était bonne de coupler la chose.
Oui, puis c'est aussi marqué, encore une fois, l'ancrage du coq dans le monde du rugby féminin. Comme tu le disais, il y a les coquettes qui sont installées à la couronne depuis plusieurs saisons, et puis vous avez désormais du coup cette équipe de jeunes avec le SA15. D'amener la crème du rugby à cette féminin, c'était aussi peut-être... raviver certaines vocations chez des filles qui ont découvert ça durant le week-end.
Oh, je sais pas si c'est ça, mais autant avec les garçons c'est difficile, alors que pour les filles je trouve que s'il y a une appétence pour notre sport que je n'arrive pas à bien comprendre encore complètement, mais c'est d'une fraîcheur, c'est rafraîchissant, c'est comme nos cadets à l'époque, quoi. C'est avec de l'enthousiasme. C'est, pour moi, c'est un modèle. C'est un modèle et c'est vraiment un beau moteur.
D'ailleurs, toujours sur le volet féminin, la section du féminine du Collège de la Couronne, quel bilan vous avez tiré du coup de cette, je crois que c'était la première année que vous la lanciez au Collège de la Couronne. Quel bilan vous en tirez?
Alors, c'est une réussite, mais une totale réussite dans ce sens où toutes n'étaient pas licenciées au club et donc au fur et à mesure, il y en a qui sont venues au club. Par l'entremise de Guillaume Marchive, il a pu avoir comme marraine deux internationales françaises, Mada Soufal et Iliana Brosseau, et internationales qui jouaient au Stade Bordelais, et qui sont venues. Elles sont venues donc au collège, et on partage une journée avec ses collégiennes. Elles ont mangé au collège. Le principal principal était heureux. Donc, c'est vraiment une belle, belle journée. Les filles, scolairement, ont fait une belle année scolaire aussi, parce que c'est d'abord c'est ça le principal. Hein.
Bien sûr.
C'est l'école et puis après le rugby. Et puis, donc il y en a eu d'autres nouvelles qui sont arrivées au collège. Et non, ça perdure et c'est excellent, vraiment de très bon augure. Et en plus, donc, il y a une section rugby féminine au lycée Charles Coulon.
Ah, c'est bien, ça permet d'avoir une certaine continuité pour.
Cette année. Ouais. Oui. Et bon, donc là, ça a été plus facile, entre guillemets, à ouvrir parce que c'était une extension de la section masculine. Donc, on a pu l'avoir. Mais grâce à l'apport de M. Bayonnet, le proviseur, qui a bien œuvré et qui a tout fait pour. C'est-à-dire que sans l'éducation nationale, on pourrait pas, quoi. Il n'y a pas. C'est vraiment avec leur appui. Et c'est aussi notre sérieux, le sérieux, en fait, des enfants.
Oui, d'ailleurs, faut souligner donc le travail du coq dans cette section, le travail aussi du collège de la Couronne, et puis surtout, moi, je voudrais mettre en avant Guillaume Marchif, qui a été à l'initiative de cette section. C'est vraiment important d'avoir un homme puis un passionné de rugby comme lui à sa genèse.
C'est un référent, c'est de la compétence, et c'est aussi beaucoup de générosité et puis. Un allant. C'est-à-dire que quand il est passé au collège à Villebois-Lavalette, il a convaincu 6-7 filles qui sont toujours là. Donc, c'est quelqu'un qui est promoteur, c'est-à-dire qui fait la promotion correctement de son sport et qui amène les gens à ce sport. Ça a vraiment une grande, grande valeur. Et puis, mon fils aussi, qui est au collège, et qui est professeur de PS aussi au collège, et qui en amène vraiment. À ce jour, il m'a dit que j'en ai au moins une trentaine, donc c'est énorme. Voilà.
D'ailleurs, combien de filles, du coup, alors, sont dans la section collège? Est-ce qu'il y a des chiffres? Est-ce que vous connaissez un peu les chiffres?
Oui. Au collège, elles sont à peu près presque une vingtaine, ce qui est quand même conséquent.
Oui, ce qui est pas mal, oui.
Oui, mais c'est conséquent.
C'est vrai qu'il me semble que c'est la seule, mais en tout cas, c'est l'une des plus grandes sections de rugby féminin au collège de toute la région.
Je ne savais pas vous dire, mais en tout cas, en Charente, oui, parce qu'on est l'une de la seule.
Oui.
Et c'est à Ruffec, mais Ruffec, c'est un lycée. Mais oui, c'est important. Après, je rentre pas dans ce type de classification. Moi, ce qui est important, c'est de l'avoir côte à côte au club et puis que c'est un continuum, quoi. C'est ça qui m'importe le plus.
Les coquettes, comment ça se passe pour elles au niveau résultat cette saison?
Écoutez, elles ont fait un super résultat en allant boire de Poitiers à Poitiers. Et après, donc elles sont allées se faire, elles battues par Libourne, qui était vraiment une grosse équipe avec des qualités.
Et parlez-nous un peu de cette section jeune, du coup, rugby féminin, avec donc le SA15 également, qui a pris part à ce projet. C'est un projet ambitieux d'avoir en tout cas une équipe de jeunes féminines sur du rugby à 15 en plus, ce qui n'est pas forcément toujours facile.
Ce sont les conditions qui l'ont déterminé, puisque nous avions en effectif plus d'une trentaine de joueuses en moins de 18 l'année dernière, et qui jouaient à 10. Ça veut dire que bon, le calcul est vite fait, d'accord. Il y a celles qui jouent plus les remplaçantes, et ça en fait quand même beaucoup, beaucoup qui restent sur le côté. Après, dans un souci de pérennité de joueurs, on souhaite, pour moi, le jeu à 15 est plus constructeur et création d'une équipe ainsi de suite. Donc moi, il était logique d'aller vers le 15.
Le 15, d'ailleurs, il faut compter un effectif de combien de filles à peu près pour durer sur une saison?
Une trentaine, c'est ce qu'on a. On en a 32 là.
Ouais.
Et c'est ce qu'on a besoin, quoi. On a besoin de 32 joueuses. Ouais.
Et puis vous parlez du coup de déplacements, notamment du côté d'Aurillac. C'est aussi formateur d'aller jouer contre quand même des grands noms du rugby français.
Ah, surtout qu'elle descendait, elle, d'élite 1, donc elle a déjà beaucoup d'expérience et a déjà un certain niveau de jeu. Donc on a morflé, comme on dit dans le jargon, mais c'est pas, c'est-à-dire qu'on apprend, hein, on apprend de ses échecs et puis on apprend aussi effectivement ce déplacement, on apprend aussi le repas pris en commun, le retour qui est long, qui peut être pénible. C'est aussi un apprentissage et on apprend aussi à des fêtes, hein, avec on constate des réactions diverses et bon, à nous effectivement d'expliquer et puis d'aller toujours vers l'avant et puis de savoir comment on fait par rapport justement à un échec.
Et donc, pour terminer sur cette équipe, elle est coachée par qui?
Alors, elle est coachée par Sébastien Montastruc,
d'accord.
Marine Bozek, Gabin Brun Et on a aussi qui donne un coup de main Monsieur Arnaud Duparc, qui est là aussi, pardon. Et puis il y a aussi Cédric Gourdon qui a un apport, Stéphane Sautreau, et j'ai aussi mon Quentin qui donne quelquefois des conseils utiles. Voilà.
Bon, donc, pas mal d'encadrants du coup.
Elle est oui, mais parce qu'il y a besoin, parce que c'est un sport qui est émergent, oui, c'est un sport où nous aussi on apprend. En fait, on est aussi nous aussi en apprentissage. Hein,
il y a combien de coachs en tout là ? Vous avez combien de coachs ou d'éducateurs ?
En tout à la couronne ?
Oui.
On est bien une cinquantaine. Hein.
Ah, quand même.
Oui. Oui, c'est pour ça que je vous dis, la vitrine, elle est un peu triste ou nette, mais derrière le club, il est immense. Mon club,
Il est immense. Oui. Nous, de l'extérieur, vous avez raison, parce que heureusement, il y a cette émission justement pour découvrir et entrer dans le rugby, notamment à la couronne, parce que 50 personnes, moi, j'imaginais pas ça.
Et parce qu'au vu de l'effectif, on est obligé. Oui, je veux dire, c'est une quête incessante pour de façon à ce que nos joueuses ne soient pas laissés pour compte. Quoi. C'est impensable.
C'est bien de rentrer dans le vestiaire avec vous, puisque là, franchement, on apprend des choses, on découvre même des choses. Et comment vous pouvez, alors, c'est peut-être une question, vous pouvez peut-être pas me répondre dans l'intégralité, mais quand vous vous déplacez pas à 3 km, comment c'est organisé tous ces déplacements? Qui a la charge de ces déplacements? Qui va chercher le sponsoring? Et comment vous faites pour vous retrouver les 460, alors pas ensemble, mais au moins pour se connaître? Parce que vous parliez de, tout le monde ne se connaît pas, comment vous allez faire pour notamment, que tous puissent se connaître?
Alors, comme je vous ai cité précédemment, j'ai Pamela qui est là, et je vois que vous là.
Ici, si, ben, on aimerait bien.
Bienvenue, Pamela.
J'aimerais bien qu'elle s'exprime.
Bonsoir.
Vas-y, elle va parler.
Donc, moi, je suis chargée de communication au CEC, je suis là depuis 2 mois, à peu près. Et donc, je fais mon apprentissage en alternance avec Media School. Et dans ce cadre-là, je me charge de la communication, donc des réseaux sociaux, du site internet, des événements. Et donc, il y a beaucoup de choses à faire et il y a beaucoup de monde. Et donc, je recense les projets à faire pour cette année. Pour l'instant, donc, c'est juste voir qu'est-ce que je peux mener sur projet Téléthon, projet tout ce qu'il y a à faire avec le club. Donc, moi, je prends ce qu'il y a à faire et j'ai l'initiative avec Jean-Pierre. Et je mène avec Jean-Pierre donc, ces projets-là.
Ma deuxième question, c'était sur le fonctionnement, mais des déplacements. Comment vous organisez quand il y a plusieurs équipes qui se déplacent au-delà du département?
Je fais appel à des prestataires, c'est-à-dire que on travaille avec la compagnie de bus attenante, donc je m'en occupe. On a aussi au club 4 minibus.
Ah oui.
Qu'on utilise. Vous n'êtes pas sans savoir que cet été, on a été agressé, oui. parce qu'il y a un minibus qui s'est fait cramer. Oui. Et là, je suis révolté parce qu'en fait, pour moi, c'est s'attaquer aux enfants.
Oui.
Je trouve ça innommable, mais bon, c'est un coût important, mais bon, après, c'est pas compliqué, je m'en occupe un peu, quoi, oui.
Et moi, je voulais revenir forcément sur le volet communication, parce que on profite de la présence de Pamela. C'est vrai que c'est un peu le nerf de la guerre aujourd'hui, là, un peu la communication, finalement, se vendre, notamment sur les réseaux, c'est primordial pour la survie du club.
Alors, tous les clubs, ils ont maintenant des voies de communication comme ça. Après, ce qu'il faut, c'est se différencier. On a la chance avec Pamela et aussi David Brenon d'avoir du talent. Et on se différencie par le talent. Comme je disais à Pamela, quand vous voyez les photos des garçons en maillot et l'air souriant ou leur maillot vainqueur, tout le monde fait la même chose. Il faut être différenciant. Il faut attirer cet œil et donner envie. Si on fait comme les autres, on reste comme les autres.
D'où l'apport justement d'une étudiante en communication qui permet justement d'avoir peut-être ce regard un peu nouveau, novateur et puis peut-être moderne aussi.
Et il y a aussi le fait qu'elle ne soit pas issue de ce milieu et qu'elle a un côté, une vision, je dirais, plus esthétique.
Vous avez choisi Attitude 98.3 et 90.7, mais aussi www.attitudefm.com. Merci de votre fidélité. Vous écoutez Culture Sport, votre émission chaque lundi 19h-20h30. Désolé de t'avoir interrompu, Jean-Pierre, mais tu parlais de communication. Ça fait partie du job, ça aussi. C'est à toi, je t'en prie.
Et justement, j'avais aussi une autre question pour Pamela. Justement, pourquoi le rugby? C'est vrai que au final, même si on a évoqué pendant de longues minutes le fait que le coq soit hyperactif dans le rugby féminin, c'est vrai que quand on est étudiant en communication, c'est peut-être pas forcément le premier milieu vers lequel on va se tourner. Quels sont du coup tes prochains projets ou tes prochaines missions? Surtout que là, on arrive à Noël, surtout la période des fêtes.
Alors, on va arriver aux périodes de fin d'année, donc je vais faire un calendrier de l'Avent où je vais proposer tous les adhérents et même à l'extérieur, que ce soit des lots de participation pour que ce soit dans Angoulême, aller au cinéma, voilà, aller vers l'extérieur. Et en suivant, je vais continuer mes publications, que ce soit pour les matchs, que ce soit pour les coquettes, et voilà, continuer mes projets pour tout ce qui est associatif à côté, donc le Téléthon ce week-end. Et l'année prochaine, commencer sur des projets où je vais inclure tout le club, et donc des publications d'interviews, de photos, et voilà, essentiellement.
Oui, puis ce qui est intéressant, c'est que les réseaux sociaux, ça amène à la création, ça amène... quand on a des idées, finalement, on peut pratiquement tout faire.
Ah ben oui, ça peut aller dans tous les sens. Je peux prendre une personne, faire une interview, faire des photos, enfin partir sur des sujets et puis mettre en avant la personne, donc ça soit voilà son projet sportif, son projet personnel, et montrer qui c'est, et ensuite montrer qui est l'équipe, montrer qu'est-ce qu'est le club en fait.
Ouais,
donc, on peut partir d'une personne comme deux personnes, de tout le monde. Ça peut être des projets où on imagine ensemble, que ça soit faire des photos pour la lutte contre les violences faites aux femmes. Des photos, il y aura pour Noël, des photos pour la journée du sport, il y a aussi la journée de droit de la femme, il y a plein d'idées en fait, donc on peut partir un petit peu dans tout
ce. Bon, et finalement, depuis ton arrivée, le bilan il est positif?
Ah ben oui, pour moi c'est positif. Après, j'espère que Jean-Pierre aussi.
Vous êtes apprenti combien d'années encore, et est-ce que le rugby, ça vous a dit d'aller sur un terrain?
Alors là, je suis apprentie jusqu'à juin, au moins l'été de l'année prochaine.
Ouais.
Et il faudrait déjà que je tente le ballon.
Et le rugby sur le terrain?
Voilà, faudrait que... Ah, mais moi, je ne l'ai pas encore tenté, mais c'est... pourquoi pas. Après, il faudrait que je chausse les crampons et que je tente, que je tente l'expérience.
Bah ouais, avec un casque et puis des protèges tibias, ça peut être fun.
Protège-dents aussi.
Protège-dents, oui.
J'y tiens.
Est-ce que le coq rugby, donc forcément il y a la page Facebook coq rugby la couronne. Est-ce que le club est sur d'autres réseaux sociaux?
Oui, on est sur Instagram également.
Donc là du coup un réseau social plus porté sur les photos et puis la création de visuel.
Voilà, ce qui donne envie en fait, parce que le visuel c'est ce qui parle en général.
Vous avez envie par la suite de continuer peut-être au CO ou peut-être ailleurs?
Dans l'idée, oui, pourquoi pas dans un milieu associatif. Donc c'est ce qui m'intéresse en général, faire vivre une communauté.
Bah là, vous êtes en bonne main hein, au niveau du CO, parce que là, ça fait beaucoup de choses à gérer hein, et au niveau de communication, au niveau de c'est pas facile.
Hein. Ah, exactement. Oui, parce que déjà, avec 460 licenciés, ça veut dire que derrière, il y a encore tous les partenaires, il y a tout ce qu'il y a autour, donc ça fait un nombre énorme.
Les partenaires, vous en avez combien actuellement? Pour le fonctionnement, c'est important. Il y a la mairie, la ville de la Couronne, mais il y a aussi des partenaires.
Une trentaine.
Qui organise alors?
Une trentaine.
Qui compose les équipes? Voilà, il y a des coachs, je parle à Jean-Pierre peut-être là, c'est un petit peu plus son domaine, qui a les responsabilités des équipes et qui fait les équipes, qui compose les équipes et quel jour? Comme dimanche, vous allez jouer contre l'Île Dorée, qui va composer l'équipe première? Est-ce qu'il y a des changements?
C'est les entraîneurs qui sont en charge de ça. Hein.
Mais vous avez un regard quand même, Jean-Pierre, dessus?
Je me l'interdis.
D'accord.
Non, mais c'est l'interdit. Un président doit présider, l'entraîneur il entraîne et l'arbitre il arbitre. Hein. Et le joueur il joue. Non, ça serait la mauvaise idée. J'ai mon avis. Hein. J'ai mon avis, mais je me garde pour moi.
Ça fait combien de temps, Jean-Pierre, que tu es président du COC? Parce que moi j'ai l'impression que tu es toujours connu président du rugby de la Couronne.
Ouais. Alors j'étais un jour j'étais enfant, j'étais adolescent.
T'as même été joueur.
J'ai même été joueur dans un temps très très lointain et président depuis 2010.
Ouais, donc ça fait 12 ans, ça correspond à peu près au moment où vous avez organisé les finales régionales sur la couronne.
C'est ça, oui. Et alors, la chance que j'ai, parce que en fait, j'ai beaucoup de chance, j'ai Fred Poix qui est donc président des cours, ainsi que Michel Bernanda, donc nous sommes trois présidents.
D'accord. Ah, Michel est gentil. Michel, ouais, il est gentil, Michel. C'est un bon sponsor, j'espère. Hein.
Mais il nous donne des doux, il nous laisse quelques douceurs.
Ouais, il est gentil. C'est un bon gars. Il vous donne des crêpes aussi, non?
Ça m'arrive.
Alors, en ce moment, Jean-Pierre, je vais faire un petit peu d'humour. On approche de Noël. Vous prenez des crêpes en ce moment. Hein.
Oui, mais vous avez le droit.
Je plaisante. Hein.
Attention, ta blague va se retrouver sur les réseaux sociaux bientôt. Hein.
Non, c'est pour plaisanter, parce que je sais qu'il y a des périodes difficiles dans une saison et celle-ci est peut-être plus compliquée que les autres et donc ça va revenir.
Bon, ça va revenir. Et puis bon, oui. Les garçons, dimanche dernier, c'était la tremblade, ils n'ont pas lâché, ils ont perdu certes, mais ils n'ont pas fait.
Oui.
Ils ont tenu jusqu'à la fin, quoi, sans problème. En B, ils ont fait un score et puis en première, ils perdent 33-24, ce qui n'est pas.
Oui, c'est ça. Oui.
Bah, ils n'ont pas perdu la face, quoi. Ils sont bien battus.
Le groupe d'ailleurs de la première, est-ce que la moyenne d'âge du groupe de la première est relativement jeune? Enfin, je sais qu'il y a beaucoup de jeunes à la couronne. Est-ce que du coup le groupe de la première s'en ressent au niveau de la moyenne d'âge?
Forcément, c'est très jeune. Bon, j'ai quelques reliques, mais ils sont très très jeunes.
Ouais, donc c'est aussi du coup la continuité de l'apprentissage cette poule de Régional 1.
Tout à fait, oui. Tout à fait. On apprend, mais bon, des fois, j'aimerais bien. Parce que l'adage qui dit l'essentiel, c'est de participer.
Oui.
Je veux bien entendre, mais au bout d'un moment, j'aimerais bien gagner, moi, quand même, de temps en temps.
Oui, j'aurais peut-être une dernière question avant de vous quitter. Pour organiser une fête comme ça, comme vous la faites chaque année, avec toutes les associations, tous les clubs, hein, parce qu'il y a le foot, il y a le rugby, il y a le judo. Okay. Ça, vous organisez combien de temps à l'avance? Parce que ça demande aussi de l'énergie le soir.
David, ça c'est pour Place au Sport. Combien de temps pour organiser? Au moins 4 mois, oui, effectivement, pour mettre toutes les associations en relation. Que 1000 participants cette année, hein, c'était
combien de clubs d'ailleurs sont participés cette année?
Il y a 23 clubs cette année.
Ah oui, c'est beaucoup.
Donc il y avait des clubs sportifs et puis donc des associations culturelles. C'est ça. C'est pas une histoire de mélange des gens. C'est-à-dire que pour moi, c'est un mélange de richesses.
Hein. Oui, c'est aussi voir un peu tout le panel d'associations qu'il y a sur la couronne.
Complètement. Mmh. Et on revient à ce que je disais tout à l'heure, mais c'est une vision, quoi. C'est une vision, mais à 360 degrés, quoi. C'est-à-dire qu'on voit tout ce qui se passe, ouais.
Moi, je voulais aussi parler de cette poule de R1. Est-ce que c'est la même que l'année dernière? Parce que j'ai l'impression de retrouver beaucoup de noms d'équipes que vous aviez affrontées la saison dernière.
Oui, à peu près les mêmes. Se sont rajoutés Pays Médoc, qu'on va rejouer le 10 décembre chez nous. Et s'est rajouté dessus aussi la Tremblade et Ville de Ré, que nous n'avions pas.
D'accord. Oui, donc ça fait une poule finalement avec vous en Charentais. Et puis après, derrière, du 17 et du 33.
17 et 33, oui, tout à fait. Mais oui, dans Charente, nous sommes les seuls en R1.
Oui, tout à fait.
Et oui, c'est vrai, ouais. Jean-Pierre, est-ce qu'il y avait des objectifs qui ont été fixés en début de saison pour l'équipe Fagnon, en tout cas? Est-ce que c'était le maintien? Est-ce qu'il y avait d'autres objectifs?
Ça n'a pas été formulé comme tel, je dirais, mais... Oui, c'est le maintien, parce qu'au vu des jeunes, au vu des arrêts de certains, oui. On savait pertinemment qu'on n'était pas les plus forts du monde, quoi, oui.
Mmh, oui, donc on va dire que c'est une saison de transition dans ce cas-là.
Oui, ça me plaît bien comme terme, oui.
Oui.
Il y a combien de descentes?
Je l'ignore, quoi. À ce jour, je l'ignore.
D'accord.
Après, sincèrement, je pense qu'on va gagner contre Ville de Ré. Pays Médoc, c'est possible. On les a pris au mauvais moment, ils étaient en pleine bourre, mais là ils sont pas au mieux. Donc, on doit pouvoir les prendre. Après, on reçoit Marans aussi. C'est-à-dire qu'on va recevoir les équipes qui sont à peine au-dessus de nous.
Donc c'est des matchs, importants à gagner. Et puis, voilà, en plus, c'est des matchs que si vous les gagnez, forcément, vu qu'eux vont perdre et que vous allez gagner, ce qu'on souhaite d'ailleurs, l'écart va vite se réduire.
C'est ça, c'est des matchs à 8 points, ça, oui.
Tout à fait. Et puis par rapport au panier de la poule, il y a beaucoup d'équipes du 33, aussi Sainte, hein, qui avait joué en Fédéral 3 il y a quelques saisons. Est-ce que c'est une poule pour toi qui a différentes vitesses?
Oui, parce qu'en fait, bon, quand on voit Pays Médoc ou on voit Saint-André de Cubzac qui se sont renforcés avec des joueurs de Fédéral 1, Fédéral 2, donc là, effectivement, on n'est pas invité, quoi. Oui. C'est-à-dire que là, c'est ce qu'on appelle c'est un autre modèle économique et qui ont d'autres moyens et qui attirent des gens à un autre niveau. Donc là, moi, je ne suis pas invité du tout. Mais ça c'est pas grave. C'est pas grave du tout, ça.
Oui, puis c'est vrai que le rugby dans le 33, c'est aussi, il y a un gros bassin et puis il y a un très bon niveau. Moi, j'ai le fils d'une amie qui joue à Castillon-la-Bataille et qui me semble avait joué contre vous il y a quelques saisons et qui là, c'est vrai, est premier en Fédéral 2. Donc il y a beaucoup d'équipes et beaucoup de réservoirs vers Bordeaux.
Bah, c'est simplement un bassin beaucoup plus grand, un bassin de population qui est beaucoup plus grand. Dire que rien que Bordeaux, je pense que c'est une agglomération, c'est au moins 1 million d'habitants. Nous, Grand Angoulême, c'est 120 000, quoi. C'est-à-dire que,
ouais.
Faut comparer, c'est comparable, quoi. Même, si on prend même que toute la Charente, on est 320 000 habitants. C'est tout, hein.
Bon, ça reste quand même intéressant de se confronter un peu à ces clubs-là. Ouais. Mais c'est intéressant quand on gagne, j'ai retenu. Hein.
Oui, c'est bien participé, mais bon, ça va un moment, quoi.
Jean-Pierre, quel est le regard du rugby amateur sur l'événement planétaire qui est la Coupe du Monde et qui va se dérouler en France cette année prochaine?
J'essaie de trouver la bonne terminologie. C'est magique parce qu'on a une équipe de France qui marche sur l'eau, comme on dit. C'est beau, ils sont beaux. Ils génèrent de la beauté, ils génèrent de l'émotion. Et on ne peut qu'adhérer. C'est-à-dire que ils changent de joueur et c'est aussi beau, ils changent c'est de la magie. Il y a de la magie. Donc on est derrière. Après, il y a une excellente communication aussi dessus et ils nous emmènent, oui. C'est très, très, très bien fait, je trouve.
Je vais peut-être poser une question qui dérange. Aujourd'hui, il y a des affaires en cours au niveau des affaires judiciaires en cours au niveau de la présidence et du comité d'organisation. Est-ce que tu as une opinion là-dessus, Jean-Pierre?
Non, j'ai pas. L'opinion, c'est une opinion d'un homme qui aime pas qu'on touche à nos référents. Après, moi, je connais pas les tenants et les aboutissants, donc j'en sais rien. Ça me dérange quand même. Ça me dérange, je veux dire que. Quand on parle de mise en examen, quand on parle de concernant Haché qui est viré, je pense qu'il y a des choses derrière, donc ça me dérange, ça me plaît pas.
Bien sûr.
On se veut garant de valeurs, on prône des choses et on n'est pas en ligne avec ça, donc ça me va pas. Après, je connais pas, je sais pas, j'y suis pas. Je suis pas dans les arcanes du pouvoir, donc.
Moi non plus, on fait que relayer ce qui est passé dans la presse et notamment dans l'équipe. Donc il y a eu une enquête approfondie sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que ceux qui sont mis en examen aujourd'hui, c'est Bernard Laporte, Moël Altrad et Serge Simon, plus un quatrième dont le nom m'échappe. Mais bon, voilà quoi. Ça fait un peu désordre quoi avant une Coupe du Monde.
Ouais, mais après je pense que tout est organisé, tout est en route, quoi. Et le fagnon, c'est l'équipe. C'est pas eux, quoi.
C'est pas des hommes, ouais, tu as raison.
C'est pas eux qui sont devant la scène. C'est pas eux qu'on va entendre. On va entendre Galtier, on va entendre nos joueurs.
Oui.
On va pas les entendre eux.
Et puis, le rugby, c'est un sport, donc le résultat sportif va primer sur tout. En espérant que la France aille le plus loin possible.
On le voit avec la Coupe du Monde de foot, ça balaye tout. C'est-à-dire que l'événement sportif en lui-même, la performance, l'émotion que ça génère, balaye tout. Balaye les idées, balaye plein de choses, quoi.
Ouais, moi, je pense que c'est bien de prendre du recul. Quand c'est judiciaire comme ça, il vaut mieux prendre du recul. Voilà, après, il faut laisser la presse faire. Et puis, moi, c'est surtout la justice que je fais confiance. Donc, voilà, après, nous, on n'est que spectateurs et lecteurs.
On est lecteurs, effectivement. Et donc, on a un peu de puissance, un peu de moyens au moment du vote. Ouais, mais là, on ne connaît pas. Moi, je ne veux pas se positionner sur un truc.
Oui, bien sûr.
Effectivement, C'est toujours dérangeant, ce genre de choses. Quand même.
Oui, et puis il faut faire attention parce qu'un pot, un mot inversé sur l'autre, ça peut déjà porter préjudice, hein, surtout qu'on vit dans un monde de procédures.
Ben, les mots ont du sens maintenant, oui, encore plus. Oui.
Vous écoutez Attitude sur 98.3 à Angoulême, Barbezieux et Cognac, 90.7 à Ruffec, et aussi sur www.attitudefm.com. C'est Culture Sport, votre émission. Chacun des 19h20, nous retrouvons Jean-Pierre Carabini, président du COC, qui répond aux questions de Christian et de Dédé. Messieurs, c'est à vous.
Oui, enfin, moi, c'est simplement conclusion pour moi. On est rentré vraiment dans le vestiaire de la couronne. Donc, moi, je tenais à remercier Jean-Pierre et puis, évidemment, toutes ces personnes qui œuvrent, bénévoles ou pas, au sein de ce club.
Parfait. Christian ?
Bah écoute, non, moi j'ai deux questions, une pour Jean-Pierre et une pour Pamela, histoire de faire un deux en un. Je vais commencer par parler de communication. Est-ce que Pamela a pu rencontrer potentiellement et surtout un peu observer ce qui se faisait aussi dans les autres clubs couronnés ou parler un peu avec les chargés de la com finalement de d'autres clubs parce que c'est toujours aussi intéressant de voir ce qui peut se faire autour aussi.
J'ai pris connaissance de ce qui se fait sur principalement les réseaux sociaux. Donc, plus tard, pourquoi pas échanger directement avec les personnes, ce serait un bon moyen, surtout pour mon apprentissage.
Oui, tout à fait. Et puis, la question pour Jean-Pierre, c'est une question que Didier pose à tous les invités, donc c'est ça que je la pose. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter au COC pour 2023, Jean-Pierre? Pas mal de victoires.
Oui, des victoires. Oui, j'en veux, moi, des victoires. Après, et puis je voudrais remercier tous mes bénévoles. Parce que, c'est énergivore, c'est chronophage, c'est tout ce qu'on veut, mais ils ont beaucoup de mérite, beaucoup, et on ne sait pas vraiment bien comment les remercier. Faut parler d'eux parce que ils le méritent amplement.
D'ailleurs, en parlant de bénévolat, est-ce que le club s'est positionné peut-être en fin de saison pour accueillir des matchs sur terrain neutre de phase finale ou d'autres, enfin, est-ce qu'il y a des choses qui sont prévues au niveau organisationnel au club sur 2023?
Non, c'est toujours prévu. Moi, je suis toujours preneur, mais bon, on le sait au dernier moment, on le sait pratiquement le lundi pour le week-end prochain.
Oui, parce que ça dépend de la situation géographique de deux équipes.
Complètement. Ouais. Et moi, j'ai eu des rencontres de phase finale féminine, surtout avec des bons niveaux. On avait eu Rennes qui jouait contre Castres. Et c'est du bon niveau, là. Les filles, elles envoyaient, hein. C'est pas, il y en a eu d'autres phases finales aussi. Non, on est toujours preneur. Ça se passe. On a cet avantage d'avoir, des terrains, des vestiaires, des locaux et puis surtout une capacité d'accueil et des bénévoles, oui.
Oui, c'est des
bénévoles qui sont disponibles et qui sont accueillants.
Oui, moi je me rappelle d'avoir vu notamment le match des U17 de La Rochelle contre les U17 de Agen. Je crois que c'était les demi-finales des championnats de France il y a quelques années. Et c'est vrai que c'était du très bon niveau qui était proposé sur le terrain de la couronne, effectivement.
Effectivement, et puis c'était pas sans. Tu te souviens, il y avait Merlin qui était là, il y avait Colazo.
Oui.
Il y avait du bon monde. Mais l'année dernière, j'ai vu, il y avait Castagnette qui est venu. Parce qu'il y avait sa fille qui jouait à Castres.
D'accord.
Donc, il y a ou son fils, pardon, je sais pas. C'est moi qui dis une bêtise. C'est son fils qui était là. Donc, il y a des gens connus qui passent chez nous, hein. Des gens, puis des gens un peu moins connus, mais qui valent autant le coup.
Oui, et d'ailleurs, il y a quelques joueurs d'Agen qui jouent en Pro D2 actuellement, qui étaient dans l'équipe d'Agen du 17 il y a quelques saisons. Enfin, en tout cas, c'est vrai que quand le speaker a annoncé le nom des joueurs, j'ai reconnu quelques noms que j'avais que le directeur du match U17 m'avait donné à l'époque. Donc effectivement, il y a du beau monde qui est passé sur les terrains du COC, mais le meilleur des mondes, ça reste que les joueurs couronnés, bien sûr.
Complètement, mais c'est une belle conclusion. Bien. La meilleure, c'est la couronne.
Tout à fait.
Parfait. Écoute, Jean-Pierre, merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, c'est toujours un plaisir que de t'entendre et de passer du temps qui passe ça très vite avec toi. Merci à Pamela également d'avoir apporté sa touche d'expert en communication. Là, voilà. Parfait. Il y a une chaude ambiance au sein du club. Tout va bien. Parfait, merci encore Jean-Pierre d'être venu. Et donc on te dit
merci à toi. Merci, au revoir.
À très bientôt, au revoir.
Bonne soirée.